Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui le Salon Noir aura des préoccupations dépassant l'ordre matériel. Tenter de retrouver les récits fondateurs, les mythes de notre passé le plus lointain. Truelle en main, l'archéologue sent bien démuni dans cette vaste quête. À la recherche de faits matériels, son champ est limité. Ainsi, le malheureux chercheur peut parfois entrevoir quelques pratiques religieuses, mais au grand jamais les rites anciens qui lui sont inaccessibles. Les mythes semblent par essence insondables, impénétrables. Pourrait-on toutefois en remonter le fil et mettre au jour quelques mythes fondateurs, vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années? Ce sera aujourd'hui notre pari avec Jean-Loïc Lequellec. Bonjour.
Bonjour.
Pour parler de mythes, mythologie, mythème, il me fallait un mythologue, mieux un mythologue comparé, qui de surcroît se penche sur les temps anciens, un préhistorien donc, directeur de recherche au CNRS, Jean-Loïc Lequellec, vous êtes tout cela à la fois. Je reviens un bref instant sur notre malheureux archéologue. Les mythes ne se fossilisent pas. C'est fort dommage pour lui, mais c'est comme ça.
Oui, il n'y a aucun espoir de jamais retrouver les mythes d'avant l'écriture, au moins dans leur forme exacte telle qu'ils étaient racontés. Et c'est la raison pour laquelle les archéologues qui souhaiteraient s'intéresser à ce domaine ont tout intérêt à troquer leurs truelles pour d'autres outils, des outils immatériels.
Qu'est-ce qu'un mythe ? Un récit fondateur ?
Alors, c'est un mot grec, mythe, hein, c'est mythos en grec, c'est donc un récit. Voilà. Avec le temps, on a spécialisé ce terme dans le langage des mythologues, en tout cas, pour désigner les récits qui traitent notamment des origines. Les récits qui nous expliquent qu'autrefois, le monde n'était pas comme il est maintenant. Il s'est passé quelque chose qui fait que, actuellement, les choses sont comme elles sont, nous mourons, et la Terre existe alors qu'avant elle n'existait pas, etc. Et tous ces récits qui nous exposent ça, on appelle ça des mythes.
Le temps serait indispensable dans le processus de création d'un mythe ?
Au moins dans la mesure où les mythes se modifient, les mythes se transmettent et passent d'une langue à une autre, d'une culture à une autre, et à chaque fois ils se modifient un tout petit peu. Et c'est sur ces modifications successives qu'on peut compter pour essayer de remonter dans le temps avec eux.
Il doit devenir une sorte d'histoire générale.
Oui, le mythe dit le vrai pour la culture dans laquelle il est raconté. C'est une histoire sur laquelle tout le monde s'accorde au sein d'une culture dans laquelle le mythe est prépondérant.
C'est-à-dire qu'un mythe n'est pas isolé, il doit être en compatibilité avec d'autres mythes au sein de la société ?
Oui, on peut dire ça. L'ensemble des mythes constitue ce que Philippe Descola appelle une ontologie, c'est-à-dire en termes simples une vision du monde. Tous les mythes concourent à construire un grand discours, un grand récit sur le monde.
Et les mythes peuvent-ils mourir ?
Oh, fort probablement, bien sûr. Il y a des mythes qui... D'abord, il y a des tas de mythes qu'on ne connaîtra jamais parce qu'ils sont morts avant qu'on les découvre, puisque beaucoup de populations, beaucoup de peuples du monde ont disparu avant même qu'on recueille leur langue ou leur récit. Et puis, pour d'autres, on a simplement des bribes, des tout petits morceaux, soit de la langue, soit du récit. Et donc là, tout ce qu'on peut appeler mythologie chez ces peuples est à jamais disparu.
Certains d'autres perdurent sous une nouvelle forme. Je pense par exemple au mythe grec classique vieux de 2500 ans.
Oui, bien sûr. Disons que à l'heure actuelle, nous autres qui n'avons pas grand-chose dans notre vie quotidienne à voir avec les Grecs anciens, eh bien, nous connaissons tous des, ne serait-ce que le nom mythe d'Œdipe, par exemple. Voilà, tout le monde connaît un petit peu de mythologie grecque. Alors, évidemment, réactualisée, adaptée à notre propre culture, mais d'une certaine manière, donc, ces mythes sont toujours vivants.
Jean-Pierre Vernant, je crois, avait travaillé là-dessus. Cela veut dire que dans le folklore, par exemple français, il y aurait des mythes d'origine grecque ?
Alors, d'origine grecque, oui, il y en a. Il y a des histoires de type Polyphème, par exemple, qui se racontent. Et il y a beaucoup de ce qu'on a appelé contes et légendes. sont souvent construits sur des souvenirs, disons, des restes, des bribes de mythes qui peuvent être parfois très anciens et qu'on peut reconnaître sous un travestissement qui en fait des récits plus proches des contes de fées ou des légendes localisées. Mais en comparant ces récits avec des mythes d'autres cultures, on voit parfois des ressemblances surprenantes.
Et les gens n'ont absolument pas conscience qu'il puisse s'agir d'un mythe antique, bien sûr.
Non, bien entendu, parce que c'est transmis par bouche à oreille, c'est transmis par tradition orale, et les gens qui, par exemple, dans les campagnes françaises, au moins jusqu'au 19e siècle, transmettaient ces récits, n'avaient rien lu, bien entendu, ni de Pline l'Ancien, ni d'Hérodote, voilà.
Comme dans les rêves, les mythes s'appuient sur des images.
Oui, on peut dire ça d'une certaine façon. C'est une façon de voir les mythes, disons, qui n'est pas forcément la mienne, mais une façon de voir les mythes, c'est de les considérer comme un assemblage d'images, une série d'images qu'on raconte et qui se développent dans le temps. Mais pour moi, c'est pas ça l'essentiel, parce que c'est quand même essentiellement des récits. Moi, je me limite aux mythes comme récits. Alors, c'est des récits qui peuvent faire allusion à des images, qui peuvent être connectés à des images. Alors, du coup, là, peut-être qu'on va rejoindre un domaine d'archéologie plus classique, celui de l'art rupestre et des images préhistoriques qui peuvent être connectées à des mythes.
En préhistoire, il y a des images. Donc, est-ce que vous y voyez des mythes?
Alors, disons que là, un passe, je pense, ou en tout cas un très gros risque, c'est de considérer les images préhistoriques comme des illustrations de mythes, de les regarder comme si c'était une bande dessinée qui nous raconterait des mythes. Et ça, beaucoup de gens s'y sont essayés et en gros, ça ne marche pas. Nulle part dans le monde, d'ailleurs. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les auteurs de ces images, eux, appartenaient à des cultures dans lesquelles certains mythes étaient extrêmement importants. Et si on est d'accord sur le fait que les images préhistoriques ont quelque chose à voir avec la mythologie, en général, là-dessus, il y a plutôt consensus, eh bien, ce qui serait surprenant, c'est que ces images n'aient aucun rapport avec les mythes qui se racontaient à l'époque où les peintres et les graveurs étaient actifs.
Mais que peut-on comprendre donc à ces images? André Le Roy-Gourhan évoquait un être d'un autre système sidéral dans une de nos églises, face par exemple à un calice. Qu'est-ce qu'il pouvait en comprendre? Vous êtes un peu comme cet extraterrestre, vous aussi?
Bien sûr, si on voit dans une église la colombe, l'agneau, qu'est-ce qu'on peut dire si on n'a pas la Bible, si on n'a pas les textes? On peut échafauder des tas de théories sur des cultes à certains animaux, par exemple, et on sera complètement dans l'erreur. C'est le gros problème des images qui peuvent être très vite, qui suscitent l'interprétation, en fait, et qui peuvent être très vite surinterprétées. Quand on n'a pas de texte, les images, c'est vraiment extrêmement difficile de les interpréter. Sans compter qu'au cours du temps, comme là, pour ce qui est de la préhistoire, on a des images qui sont extrêmement anciennes, qui peuvent avoir plusieurs dizaines de milliers d'années, eh bien, on peut imaginer qu'au cours du temps, ces images ont été remotivées et qu'à leur propos, on a raconté des histoires différentes ou qu'on a renouvelé les récits qui étaient en rapport avec ces images.
Vous pensez qu'aujourd'hui, l'art, par exemple, rupestre, français ou autre, est surinterprété?
Je pense que oui. Il y a eu beaucoup d'essais d'interprétation globalisante de l'art rupestre. Prenons l'exemple justement de l'art des grottes et de l'art paléolithique. Donc, eh bien, ces théories, d'une certaine manière, on peut presque dire, avant même de les regarder, qu'elles sont toutes fausses, dans la mesure où elles essayent d'expliquer l'ensemble de l'art paléolithique. C'est un ensemble tellement gigantesque, sur une superficie immense, c'est toute l'Europe et même un peu plus, puisque on a maintenant en Égypte des gravures qui sont du paléolithique supérieur, qui se développent sur un temps tellement long, plusieurs dizaines de milliers d'années, que on a quand même beaucoup de mal à croire qu'une seule explication serait suffisante pour élucider l'ensemble de ces images.
Pourtant, les préhistoriens font peu de propositions, peu de modélisations sur cet art. En général, ils font quasi que décrire. Ce sont des simples pariétalistes.
Actuellement, oui, il y a une tendance en réaction. Suite aux critiques dévastatrices d'André Le Roy-Gourhan dans son petit livre « Les religions de la préhistoire », où il a démoli vraiment de manière systématique toutes ces histoires de culte de l'ours et tous les petits éléments, c'est vrai, très très élusifs, qui pouvaient faire penser à des mythes ou à quelque chose de l'ordre de phénomènes religieux. Il a eu raison d'avoir une approche extrêmement critique, mais du coup, depuis, les préhistoriens hésitent à reprendre ce dossier et à le reprendre du côté de l'interprétation. Il y a presque un tabou, bon, sauf, disons que, comme souvent dans l'histoire des sciences, les chercheurs qui arrivent en fin de carrière et qui risquent plus grand-chose, eh bien là, peuvent se lancer à dire leurs sentiments. Hein. Notamment, c'est ce qui s'est passé pour le chamanisme récemment, puisque plusieurs chercheurs ont développé une théorie interprétative s'appuyant sur le chamanisme, et sans faire de démonstration. Mais bon, disons que c'est un sentiment. Mais on attend toujours une démonstration.
Les mythes se classent.
Alors oui, ça c'est le premier travail à faire. C'est un peu ce que font les savants quand ils ne savent pas trop quoi faire. Hein. On met les choses dans des cases, on les étiquette, on leur donne des codes, des numéros, etc. Mais ceci dit, c'est quand même très pratique parce que l'ensemble des mythes du monde, c'est des bibliothèques entières, c'est tellement vaste que pour s'y retrouver, eh bien, des chercheurs, notamment scandinaves, ont entrepris de les codifier, ce qui permet de les rapprocher plus facilement, de les comparer plus facilement, d'examiner leur aire de répartition plus facilement.
Ainsi, les mythes de création de l'homme, l'anthropogonie, si l'on préfère, se classeraient en deux grands groupes.
Ben oui, c'est amusant de voir que, en fait, l'imagination, on pourrait croire que les mythes sont un produit de l'imagination, d'une imagination débridée. C'est vrai que quand on lit certains récits comme ça, on est complètement stupéfait. Mais en fait, si on prend l'anthropogonie, donc les mythes qui racontent l'origine de l'homme, il y en a très peu, finalement. Il y a une dizaine de possibilités. Et ces différents mythes ne sont pas racontés partout et certains sont assez peu fréquents. Parmi les grands mythes extrêmement fréquents, il y a celui de l'émergence, par exemple, qui est celui qui nous dit, qui expose que, à l'origine, les humains vivaient sous terre et qu'un jour, ils sont sortis par une grotte ou par un trou dans la terre. Eux-mêmes ont fait le trou, ils ont trouvé un trou préexistant et ils sont sortis à l'air libre. Une inversion de ce mythe, c'est celui qui nous expose que, au contraire, les humains vivaient au ciel et un jour, ils sont descendus sur terre. Voilà, c'est un des grands mythes extrêmement répandus sur l'origine de l'homme.
En Europe, quel mythe serait fondamental pour nous?
Alors celui-ci est très répandu, mais il y a d'autres mythes d'origine de l'homme. Il y a des mythes qui expliquent qu'un être supérieur a créé l'homme, une divinité que les mythologues appellent une divinité choroplaste, c'est-à-dire qui modèle l'argile. Et donc un des grands récits extrêmement répandus, c'est celui selon lequel un dieu, un jour, prend des petites boulettes d'argile et crée deux statuettes, le premier homme et la première femme. Et puis, il veut leur insuffler la vie. Il s'aperçoit qu'il a oublié l'âme, donc il part pour chercher l'âme. Mais pendant qu'il est parti, l'opposant, c'est-à-dire quand les récits ont été christianisés, c'est le diable, arrive et souille les statuettes de ses crachats. C'est absolument horrible. Dieu revient pour insuffler l'âme dans les statuettes. Il s'aperçoit qu'elles sont souillées. Il essaye d'enlever les crachats. Ça part pas. Il frotte, ça part toujours pas. Et d'un seul coup, il a une idée de génie. Il retourne les statuettes comme un gant. Et à ce moment-là, tous les crachats qui étaient à l'extérieur se retrouvent à l'intérieur. Ce qui explique que lorsque nous sommes malades, nous expectorons nous-mêmes ces crachats qui sont restés à l'intérieur de notre corps et ça explique que nous tombons malades et que nous mourrons un jour.
Ces deux mythes de l'homme souillé et de l'émergence sont opposés?
Alors, ces deux mythes qui sont incompatibles. Soit un jour les hommes sont sortis de sous terre, soit un jour un dieu les a créés. Mais c'est pas les deux à la fois. Alors, quand on fait la cartographie de ces récits, quand on en fait l'inventaire d'abord, et puis ensuite la cartographie, ben on a une grosse surprise. C'est que le mythe de l'émergence, dans le monde entier, il est, si je peux dire, méridional. Enfin, il se trouve dans l'hémisphère austral. Il y en a énormément en Afrique, il y en a énormément en Amérique du Sud, il y en a en Asie, en Inde, etc. Et il est absent de l'hémisphère septentrional. Et c'est l'inverse pour le mythe d'émergence. C'est-à-dire que ces deux mythes ont une répartition complémentaire, complètement contrastée. Et ça, déjà, c'est un résultat très intéressant. Rien qu'en regardant les cartes, on s'aperçoit que une des théories explicatives pour l'origine des mythes, qui est la théorie des archétypes, la théorie jungienne, ne tient pas. Parce que cette théorie nous explique que notre esprit, étant toujours fait de la même manière, puisque nous sommes des humains, du fait que nous soyons des humains, eh bien, indépendamment des cultures, indépendamment des époques, des lieux, des modes de vie, les mêmes idées, les mêmes images, donc pour reprendre cette idée du mythe comme une série d'images, les mêmes images jaillissent spontanément dans notre esprit et puis donneraient naissance aux mêmes mythes un peu partout dans le monde entier. Eh bien, c'est faux. Parce que quand on regarde une carte, on s'aperçoit que certains mythes sont extrêmement localisés et d'autres sont localisés dans d'autres zones. Ils ne naissent pas comme ça spontanément un peu partout dans le monde.
Transculture, le Salon Noir.
Vincent Charpentier.
Jean-Loïc Lequelec, ce que vous faites là, c'est de la mythologie comparée ?
Bien sûr, oui, oui. Que faire avec les mythes ? Une fois qu'on les a inventoriés, d'abord, c'est des belles histoires, mais est-ce que ça a un intérêt littéraire? Ces histoires ont alimenté notre littérature, le cinéma, la bande dessinée, les mythes sont recyclés perpétuellement. Mais que peut-on faire d'autre quand on est préhistorien, quand on est archéologue? Eh bien, en les comparant, exactement comme font les linguistes avec les langues, on peut espérer pouvoir, à certaines conditions, avec des risques, bien entendu, on peut espérer pouvoir remonter dans le temps.
Cette mythologie comparée a été basée longtemps et avant tout sur des intuitions.
Oui, et sur une documentation très insuffisante.
Déjà. Avec quelques grands pionniers.
Oui, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Hyacinthe de Charançais, qui, au XIXe siècle, avait remarqué que certains Amérindiens du Nord racontaient des mythes extrêmement semblables à des mythes grecs anciens. Et du coup, il s'est interrogé et il a cherché un petit peu. Il a trouvé aussi des mythes scandinaves ou germaniques qui ressemblaient aussi à ces mythes. Et voilà, il a commencé à échafauder des théories là-dessus. Mais c'était une intuition, disons. Il a vu qu'il y avait quelque chose là, que ces ressemblances ne pouvaient pas être le fruit du hasard.
La France est-elle un terrain propice pour le mythologue, on va même dire le folkloriste ? Ce qui est peut-être un peu péjoratif dans notre langue.
Oui, alors du coup, folkloriste, c'est un terme qui fait plutôt rire quand on dit « ouais, tout ça c'est du folklore » ou même quand on dit « ouais, de quelqu'un c'est un mythos » ou « c'est donc un mythomane, donc il raconte n'importe quoi ». C'est étonnant de voir que dans plein d'autres pays, en Amérique, en Angleterre, en Allemagne, dans les universités, il y a des cours de folklore, il y a des professeurs de folklore. En France, imaginons un universitaire qui se présente et qui dise « bonjour, je suis prof à l'université de tel endroit ». Et de quoi donc ? Eh bien, je suis professeur de folklore. En France, ça ferait ricaner, bien entendu. Or, le folklore est vraiment devenu une science.
Mais il y a un terrain en France ?
Il y a un terrain de recherche. Ah oui, bien sûr, comme partout. Du moment qu'il y a des hommes, les hommes racontent des histoires. Ces histoires viennent de quelque part et elles peuvent parfois venir de très loin. Et donc, il y a bien un terrain d'enquête.
Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous tentons de voir avec Jean-Loïc Lequelec si des mythes préhistoriques auraient pu parvenir jusqu'à nous. Aujourd'hui, vous utilisez des outils employés par les généticiens, mieux les phylogénéticiens.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle maintenant la philomémétique, c'est-à-dire l'utilisation des outils qu'utilisent les généticiens. Alors eux aussi, pour remonter dans le temps, ils fabriquent des arbres généalogiques à partir de l'étude des codes génétiques. Eh bien, du moment qu'on peut faire un code qui ressemble à un code génétique, en utilisant les mêmes outils, on peut aussi remonter dans le temps. Et ces outils ont été utilisés notamment par des archéologues, alors pas en France, c'est curieux que c'est pas passé en France, mais beaucoup d'archéologues, notamment nord-américains, ont utilisé ces outils pour étudier par exemple les pointes de flèches paléo-indiennes ou pour étudier des bifaces ou des décors de poterie. Et ça marche très très bien. Voilà. Et l'idée, c'est que dès qu'on peut coder n'importe quel fait culturel de manière à ce que le codage puisse être utilisé par ces logiciels, puisque c'est des logiciels, eh bien, on peut faire mouliner ces données par ces logiciels et obtenir des arbres généalogiques.
Les arbres de l'évolution, un peu à l'image de notre propre évolution.
Voilà, c'est le fameux.
Mais pour les mythes.
Voilà, c'est le fameux. Alors, toute proportion gardée, c'est le fameux arbre de la vie de Darwin, qui est le premier à avoir représenté un arbre de la vie. Ceci dit, il y a une grosse différence. Il faut se méfier parce que les êtres vivants se reproduisent, se modifient, etc., mais pas exactement de la même manière que les faits culturels. Notamment, il y a quelque chose qui est très différent. Alors ça, c'est Krober, un anthropologue nord-américain, qui avait bien montré ça. Qui avait montré que dans l'arbre de la vie, les branches ne se rencontrent pas. Elles divergent tout le temps. Tandis que dans l'arbre des faits culturels, eh bien, il y a des anastomoses. C'est-à-dire que les branches peuvent se rencontrer, se réunir, rediverger ensuite. Les faits culturels, eh bien, ils fonctionnent aussi par emprunt, par régression également. C'est beaucoup plus compliqué.
Pour cela, Jean-Luc Lecalec, vous avez compilé et géoréférencé 1209 versions de ces mythes de création. C'est bien ça?
Alors, pas de tous les mythes de création, mais de certains mythes de création, c'est-à-dire le mythe de l'émergence, notamment. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'est, en prenant ce mythe qui est bien documenté, donc, parce qu'au bout de 1000 versions, quand même, on a un corpus représentatif, de voir si on pouvait les coder de manière à utiliser ces logiciels. Et effectivement, on peut le faire. Et les résultats sont étonnants, parce que en combinant cette méthode avec ce qu'on appelle l'aréologie, c'est-à-dire l'étude de l'aire de répartition des traits culturels, eh bien, on peut s'apercevoir que ces mythes sont, ce mythe-là, en tout cas, est probablement paléolithique.
Les mythes n'ont pas de répartition aléatoire à la surface du globe. Il y aurait au sud le mythe de l'émergence, au nord un autre mythe lié à un plongeon.
Voilà, tout porte à croire que le mythe de l'émergence est sans doute originaire d'Afrique, et puis qui s'est répandu hors d'Afrique, ben, sans doute avec la fameuse sortie « Out of Africa » des hommes modernes. Et puis qu'il s'est répandu ensuite presque dans le monde entier, mais d'autres mythes concurrents, puisque il y a des mythes concurrents, racontant une autre origine de l'homme et une autre origine du monde. Eux sont nés en Eurasie et se sont également répandus, mais du coup, eux n'ont pas pénétré en Afrique.
Donc le mythe de l'émergence serait le plus vieux mythe de l'humanité ?
Un des plus vieux mythes de l'humanité. J'ai pas du tout prétention à retrouver des origines, parce que ça, la question des origines, on sait bien qu'on retrouvera jamais l'origine. Mais disons, avec une fourchette assez large, la possibilité d'origine de certains récits. Et pour celui-là, oui, on peut montrer qu'il est sorti d'Afrique il y a environ 100 000 ans. Et donc, ça veut dire que les gens qui peignaient dans les grottes, par exemple, avait dans la tête ce récit. Il connaissait ce récit. Et la question que je me suis posée, c'est si on pense que les images du paléolithique, les images des grottes, ont un rapport avec un mythe, eh bien, il faudrait trouver un mythe, si c'était possible, évidemment, un mythe suffisamment ancien pour qu'il ait été vivant à l'époque où les peintures étaient faites, et un mythe qui nous parle de grottes, et un mythe qui nous parle d'animaux, puisque c'est des animaux qui sont représentés, et qui nous parle d'humains aussi. Il y a moins d'humains qui sont représentés, mais il y en a. Il y a beaucoup d'humains sectionnés. Il y a des mains, il y a des sexes, etc. Puis des humains animalisés, c'était des humains pas complètement humains encore, on peut dire. Bon. Et en fait, il y a un seul candidat possible, c'est le mythe d'émergence. C'est le seul mythe que je connaisse qui nous explique que de la grotte, un jour, sont sortis les humains et les animaux.
Le mythe de l'émergence est africain, vous venez de le dire, mais il est aussi américain. Peut-on faire un lien entre les deux ?
Oui, parce que alors quand on regarde les aires de répartition, donc avec les méthodes aréologiques, on a des cartes géographiques qui sont le résultat d'une histoire. Une carte, on peut dire que c'est de l'histoire figée à un certain moment. La carte, elle est telle qu'elle est maintenant parce que auparavant, il s'est passé des choses. Et auparavant, ce qui s'est passé, c'est la diffusion de ces mythes. Et lorsqu'on peut voir sur la carte que le mythe passe à certains endroits, eh bien, on sait par l'archéologie, du coup par l'archéologie, disons, traditionnelle, que ça n'a pas toujours été possible pour les hommes de passer à ces endroits-là. La population de l'Australie, le peuplement de l'Australie, le peuplement de l'Amérique, ça s'est passé à certaines dates qu'on connaît. Et donc, le mythe est passé dans ces continents avec les hommes. On peut penser que le mythe de l'émergence est passé en Amérique du Nord avec les gens qui ont peuplé l'Amérique du Nord.
Donc, à 100 000 ans, l'Homo sapiens crée un mythe en Afrique, le mythe de l'émergence. Celui-ci va passer après 35 000 ans, va-t-on dire, hein, via le détroit de Bering, redescendre. Est-ce que, justement, il va être modifié ? Est-ce que l'on va voir une sorte de cheminement sur le continent américain de ce mythe d'émergence, avec forcément des mutations, des transformations ?
Oui, alors on le voit très très bien. Justement, c'est une confirmation de l'hypothèse. Alors, on n'aura jamais de certitude absolue, mais quand même. On peut se dire que si ce mythe s'est déplacé sur un temps aussi long, forcément, alors ça c'est la leçon de Lévi-Strauss, il s'est modifié, il y a eu des modifications, des inversions, et puisque Von Sydow appelle des écotypes, c'est-à-dire quand le mythe est raconté par quelqu'un qui s'est déplacé, qui va dans une culture qui n'est pas la sienne, eh bien il l'adapte à la nouvelle culture. Ensuite, les gens qui l'ont entendu là racontent la nouvelle version et pas l'ancienne qu'ils ne connaissent pas. Et donc, peu de proche en proche, comme ça, le mythe se modifie et on peut suivre son déplacement au fur et à mesure des modifications. Du coup, quand on regarde la carte des écotypes, c'est-à-dire de toutes les petites modifications subies par le mythe de l'émergence, on peut se dire, comme c'est en Amérique qu'il est arrivé le dernier, c'est là qu'on doit avoir le plus de modifications. Et effectivement, quand on voit la carte, c'est là qu'on en voit le plus.
On connaîtrait donc, Jean-Luc Lekalec, un mythe autour d'un homme né en Afrique il y a 100 000 ans, mais on ne connaît rien de cet homme il y a 100 000 ans.
Évidemment. Alors, je pense qu'il faut essayer d'utiliser les outils séparément. C'est-à-dire, il faut pas mélanger les outils. Évidemment, les archéologues, les préhistoriens utilisent, on parlait de la truelle au tout début de l'émission, donc c'est un symbole de la fouille, ils utilisent la fouille, et ça c'est l'outil, disons, conceptuel de l'archéologue. Comme ça, c'est un outil qui permet de remonter dans le temps. Bon, ce qu'on souhaite quand on est archéologue, c'est remonter dans le temps. Maintenant, il y a d'autres outils qui permettent de remonter dans le temps. Il ne faudrait pas s'en priver. La génétique, c'est un outil qui permet de remonter dans le temps et qui est complètement déconnecté du travail de l'archéologue. Et la mythologie comparée, c'est un autre outil qui permet de remonter dans le temps, lui-même complètement déconnecté des deux outils précédents. Là où ça devient intéressant, c'est de comparer les résultats obtenus avec ces différents outils. Quand il y a concordance des résultats, là, on peut se dire que chaque méthode se conforte l'une l'autre.
Il y a 100 000 ans, le mythe de l'émergence, donc le premier mythe de l'humanité, serait même né en Afrique du Sud.
Oui, alors ensuite, quand on fait la même démarche, une fois qu'on a compris que le mythe est apparu en Afrique, on peut se dire, mais où en Afrique et quand en Afrique? Et si on fait la même démarche, alors évidemment, derrière, il y a toute une série de calculs assez complexes, mais si on fait la démarche au sein même du continent africain, on s'aperçoit que l'émergence de ce mythe, c'est en Afrique australe.
Et si tout cela n'était qu'un artefact, une fabrication, à l'image de la fine remise en cause des langues indo-européennes par Jean-Paul de Moule?
Alors, évidemment que la grosse difficulté, c'est comment vérifier? Peut-on vérifier tout ça? Comment vérifier? En fait, on ne peut pas vérifier. La seule vérification possible, ce serait de rencontrer un homme préhistorique qui dise « Oui, c'est tout à fait ça, effectivement, quand j'ai peint la grotte, là, c'est bien ça que je pensais. » Bon, ben ça, c'est jamais, bien entendu, jamais. Et donc, il faut faire son deuil de pouvoir retrouver un jour, de manière absolument assurée, ce qu'était la mythologie de telle ou telle période préhistorique. Cependant, lorsque, par des méthodes différentes, on aboutit à des résultats comparables, parce qu'au sein même de la phylogénétique, si on utilise des corpus de mythes différents et qu'on arrive au même résultat, en faisant des calculs différents, eh bien, à ce moment-là, on peut se dire « Ah, je ne suis pas absolument certain, mais les calculs permettent d'obtenir des taux de probabilité. » Et on obtient des taux de probabilité qui tournent autour de 90% de chances d'être dans le vrai.
Grand spécialiste de l'art saharien, Jean-Luc Lekalec, percevez-vous au travers de ces peintures quelques mythologies?
Alors oui, bien sûr.
Et de la création?
De certaines peintures, de certaines gravures. Une fois de plus, il faut surtout pas essayer d'expliquer ou d'élucider l'ensemble de l'art avec une seule explication. Alors, pour certaines images, notamment les fameuses images de Théranthrope, des êtres qui sont visiblement mythologiques, qui ne sont pas des êtres réels, qui ne sont pas des êtres de la nature, eh bien pour cela, oui. Et j'ai pu reconstituer deux mythes différents de deux populations différentes voisines, Tassili et Messac, deux populations qui ont chacune brodé leur propre mythe sur un fond commun. Au néolithique, là, du coup, c'est un peu plus récent.
Deux animaux?
Oui, deux animaux qui s'opposent par leur caractère physique, par leur caractère éthologique, par leur mode de vie, etc. Et qui, du coup, ont été utilisés par deux cultures voisines, non pas pour s'opposer, mais pour se différencier, en s'appuyant sur les différences entre ces deux animaux.
Au début, les Hopis vivaient sous terre, de même que les Paiutes et les Pueblos. Un jour, ils entendent des bruits de pas au-dessus d'eux. Voilà le début d'un mythe de création Hopi, bien sûr, donc nord-américain. Ceux-ci font visiblement le lien avec l'art rupestre, mais est-ce forcément le leur ?
Alors c'est évidemment une question. Ça se trouve aussi, donc ça se trouve en Amérique du Nord. Moi, j'ai rencontré un Indien Hopi qui m'a expliqué des gravures rupestres par ce mythe. Et j'ai rencontré aussi en Afrique australe des gens qui m'ont raconté le mythe d'émergence à partir de petites gravures de traits gravés autour d'un orifice sur le sol, en expliquant que les premiers humains, quand ils sont sortis, ils rampaient sur la terre. C'était très difficile de sortir. Ils se sont agrippés aux roches comme ça et ça laissait les traces de leurs doigts, parce que tout ça se passait bien entendu à une époque très précise, qui est l'époque à laquelle les roches étaient encore molles. Mais ces images rupestres parfois sont des images anthropiques et parfois sont des images naturelles. Ça simplement, elles sont le support qui sert à raconter le mythe. L'important dans cette histoire, c'est le mythe.
Jean-Luc Lekalec, les mythes se fossilisent donc ?
Alors, on peut dire que les mythes sont des fossiles, oui, à condition de préciser que ce sont des fossiles vivants.
Jean-Luc Leclec, merci beaucoup. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nedjar, à la technique Jean-Louis Deloncle, avec la contribution de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le Salon Noir se consacre à un tout petit homme, l'homme de Florès.